RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Et bonjour à tous. 87 126 détenus au 1er mars. Les amis, on s'en fout, on s'en fout pas, Zora.
Non, on s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Ah bon?
T'avais
l'air d'un homme qui s'en foutait. Didier.
On s'en fout pas.
87 000, plus de 87 000, les amis, c'est donc un record. Ça n'est jamais arrivé en France. Charles, pourquoi tu t'en fous pas?
Non, bah, moi, je suis pas choqué par principe par le nombre de détenus, vu le nombre d'incivilités, de criminalité, de délinquance qu'on a en France.
Augmente.
Néanmoins, l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont détenus et qui ne devraient pas l'être. Et donc, je pense qu'il y a un manque de discernement très souvent chez les juges français quant à qui ils incarcèrent. Et notamment, je pense à la détention provisoire qui est joyeusement utilisée par les juges à titre plus du tout exceptionnel, contrairement à ce que prévoient les textes. Aujourd'hui, on a très très vite fait de mettre quelqu'un en détention provisoire sur des critères beaucoup plus légers que pour une peine effectivement exécutée. Ça embolise les prisons et ça fait qu'on n'a plus de place après pour mettre ceux qui effectivement doivent se voir infliger une peine pour avoir commis quelque chose et de manière en étant condamné de façon définitive. Donc il y a un manque de discernement, mais je hurlerai pas non plus en disant.
Surtout que les promesses de construction de places de prison supplémentaires ne sont jamais tenues. À chaque gouvernement, chaque président promet de construire 10 à 15 000 et puis finalement on n'y arrive jamais. Il y a toujours une bonne raison d'ailleurs pour pas les faire. Mais et les promesses d'Emmanuel Macron n'ont pas été tenues.
Non, mais les études, les audits et les discussions politiques autour de l'univers carcéral, on en a mais des tonnes. Vraiment, ça manque pas. Il y a il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que comme dit Charles, il y a des gens qui sont des détenus préventifs et qui ont pas forcément lieu d'être là.
Il y a peut-être des gens aussi de dehors qui devraient être en prison.
Voilà, exactement. Et donc, il y a aucun travail qui est fait sur la sanction et sa pertinence, son utilité contre la délinquance dans la société. C'est-à-dire qu'on y va un peu à l'aveugle. Personne n'a de cahier des charges précis qui dirait là, c'est plutôt centre éducatif fermé. Là, la préventive, elle va servir à rien. Là, il faut plutôt garder de la place pour les viols, crimes, violences, etc. Et en fait, c'est un peu le bazar. Comme personne ne gère rien dans ce pays depuis très longtemps et que personne n'étudie de manière très sérieuse toutes les études et tout le travail que des milliers de commissions font depuis des décennies, on arrive encore en 2026 à faire des listes de sujets à chaque fois pour dire « il y a un problème ». Et en fait, ceux qui nous écoutent disent « ouais, il y a un problème ». Et ils ramènent 10 gars qui comprennent rien au problème, ils font 3 tableaux et ils disent « monsieur, j'ai la solution ». On l'applique, on l'évalue jamais, et 5 ans après, on vient, on dit « ah, il y a toujours un problème ». Et en fait, ce pays, il est géré que comme ça. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Les hôpitaux, la santé...
Parce que c'est pas une priorité de construire des places de prison.
Mais rien n'est une priorité.
La santé, ça te fait réélire. Les places de prison, si t'arrives en disant «
mais si, parce que c'est la délinquance.
Tu seras pas réélu, mais non.
Mais si, parce que c'est la lutte contre les incivilités et la délinquance. Il n'y a pas de cahier des charges précis. Comment on lutte contre la délinquance? C'est pas en fabriquant plus de prisons. Tu peux fabriquer.
C'est bien ce que je viens de te dire.
Non, tu peux fabriquer plus de prisons à condition que tu expliques pourquoi tu vas fabriquer des prisons, qui tu vas y mettre, quel est le but de la fabrication de ces prisons. Là, les mecs, ils ont aucune visibilité, rien. C'est juste des mecs en costard à qui on a filé un poste, une paye, et on leur dit, toi, le technicien, faut que tu trouves une solution. Le mec, il vient, il sort ses 3 PowerPoint et son tableau, il dit, monsieur le ministre, je l'ai. Et l'autre, il l'applique parce qu'il y pige rien. Et
Didier,
on en est toujours
rapidement
à la même solution.
Moi, j'aimerais être derrière
même
ce
problème,
chiffre
pardon
de 86 000 qui est un record. On me dise combien il y a de places de prison qui vont se construire dans les 5 ans, combien il y a de mecs qui devraient être en prison dans leur pays et pas chez nous, ouais. Et combien il y a de mecs qui devraient être en hôpital psychiatrique, et combien il y a de mecs qui sont en préventive et qui devraient pas y être. Et s'il y avait ces 5 chiffres-là, d'analyser l'info qui aujourd'hui brute comme ça ne veut rien
on
dire
enchaîne
du tout.
Merci Didier de détruire mon info. Présidentielle, Marine Le Pen, snob Matignon, on s'en fout, on s'en fout pas, Charles.
On s'en fout pas.
Didier.
On s'en fout complètement.
Et Zora.
On s'en fout pas.
Eh bien oui, elle l'a affirmé. Si la justice ne confirme son inéligibilité, qu'elle peut pas se présenter au présidentiel, elle affirme ne pas avoir besoin d'un lot de consolation. Le lot de consolation, eh ben, elle parlait de Matignon, Zora.
Non mais... Le carnaval de 2027, il a commencé, il est pas prêt de s'arrêter.
Il me fatigue déjà,
mais surtout que honnêtement, sur la place politique, c'est pitoyable. Ils sont tous en train d'essayer d'être président. De Marine Tondelier en passant par Jean-Marie Le Pen, le lapsus, oui, à part Marine Le Pen et Édouard Philippe, David Lisnard, il y a une liste, mais franchement ça fait pas kiffer du tout. La bataille elle vient de commencer, la France on s'en fout, les Français on s'en fout, la situation du quotidien on s'en fout. Donc Marine Le Pen dit je ne serai pas ministre. Bah déjà on sait même pas si tu vas être candidate à la présidentielle et si tu vas pouvoir l'être.
Oh bah là comment... ça veut dire qu'elle est en train d'acter le fait
mais
qu'elle ne sera pas.
Non mais tout ça c'est de la posture.
À cette question, c'est que elle-même se dit qu'elle a quand même très peu de chances de s'en sortir.
Mais c'est de la posture.
Il ferait bien de relire la grenouille.
D'ailleurs,
les
Français.
Oui.
Et d'ailleurs, les Français sont en train petit à petit de se dire, ça sera Jordan Bardella qui sera le candidat du RN.
Non, ce qui est très curieux, c'est moi, je pense que c'est une espèce d'erreur qu'elle fait en disant ça, de présenter ça comme un lot de consolation, comme si l'Élysée c'était un cadeau. Et donc Matignon c'est un cadeau aussi, mais un cadeau un peu moins bien, donc c'est un lot de consolation. Je trouve pas ça raccord avec son discours consistant à dire qu'elle s'engage pour les Français à leur service, etc. Si on a envie vraiment de servir les Français, même si on a rêvé d'être présidente, on peut accepter d'être première ministre. Je vois pas où est le problème, et même d'ailleurs accepter n'importe quel...
D'ailleurs l'engagement a de la noblesse partout, que tu sois président d'une association. Exactement. Ou ailleurs.
Mais est-ce qu'on n'a pas tous douté du fait que Marine Le Pen n'a vraiment jamais vraiment eu envie d'être présidente?
Oui, exactement.
Pardon.
Exactement. Je pense qu'elle n'a pas le ressort intime sur le sujet.
Je pense qu'elle n'a pas, voilà. Ouais. C'est ça que ça veut dire.
Allez, on va terminer avec une...
Mais ça veut dire que même Première Ministre, elle a peur aussi.
Encore moins. Elle a encore moins envie d'y être.
Oui, mais du coup, moi, je trouve que c'est même pas très bon pour son mouvement de dire
non,
si tu veux.
Non.
Parce que tu enlèves de la dynamique, même pour ton candidat, tu vois, qui est aujourd'hui en tête des sondages, quoi.
Bardella,
c'est possible, tu vois, moi, je suis électeur du RN, je vois ça, j'ai pas envie d'aller à Matignon. Ah bon, vous avez envie de quoi?
Rien.
Vous avez envie qu'on gagne ou pas du tout, tu vois?
C'est
quand même bizarre.
Jordan Bardella, ouais.
On enchaîne.
Alors. On y va cette fois.
Oui, on y va.
Perquisition. Il a mis que des sujets énervants.
On n'a plus le temps par contre.
Perquisition à la mairie de Paris. On s'en fout pas, Zora.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Et Didier?
On s'en fout pas.
Alors, elle a lieu dans le cadre d'une enquête ouverte par le PNF, le Parquet National Financier, sur l'attribution d'un marché public sous la mandature d'Anne Hidalgo. Plus précisément, un choix de la direction artistique de la cérémonie de commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Charles, pourquoi tu t'en fous pas?
Je remarque surtout que cette perquisition a lieu après la campagne, c'est marrant. Quand c'est la droite, c'est avant.
Pendant.
Et quand c'est la gauche, c'est ou pendant. Et quand c'est en tout cas avant l'élection. Et quand c'est la gauche, c'est après. Voilà, je remarque une petite mansuétude du côté de nos amis de la justice, dès lors qu'il est question de gens de gauche, peut-être, par pure hypothèse, est-ce parce qu'ils partagent les mêmes convictions politiques?
Peut-être qu'il y a 10 jours, ils n'avaient pas assez d'éléments.
Oui, bien sûr.
Didier.
Non, mais avant de faire le procès de la justice, moi j'aimerais qu'on me dise... Ce truc-là, là, parce que l'intitulé, c'est quand même quelque chose. Combien ça a coûté? Mais j'ai aussi écouté à ce micro Bruno dire que les commémorations du 13 février 2015, c'était tout pourri.
13 novembre.
Du 13 novembre.
C'est pas passé.
Du 13 novembre 2015, c'était tout pourri.
Tant mieux d'ailleurs.
C'était pas tout pourri, c'était au contraire très cher.
Et c'est pas cher.
Si vous vous souvenez, hein.
Oui.
D'ailleurs, c'est la même personne qui s'est occupée de la cérémonie d'ouverture. Donc,
voilà.
Joli. Et c'était quand même.
À croire qu'il y a de la complaisance et de la connivence entre les gens.
Il y avait quand même une mise en scène, la scénographie. Ce qui avait beaucoup déplu à Bruno Poncet, c'est plus les invités. C'est-à-dire qu'il y avait le tout Paris, le tout Paris qui est d'ailleurs à toutes les réceptions qui étaient faites, c'était toujours les mêmes, qui n'a pas beaucoup souvent de rapport avec l'objet de la cérémonie.
Là,
on parlait des attentats de Paris.
La cour autour
du roi et du roi Macron et de la reine Hidalgo qui était là. Et tout ça a coûté de l'argent. Est-ce que tout ça se fait effectivement avec les règles d'attribution des marchés? C'est ce que le parquet essaie de comprendre.
Mais moi, il faudra qu'on me dise combien à la fin.
Ce qui mérite pas du tout d'être commenté, c'est le fait, puisque de toute façon, ce fait-là, il nous est servi régulièrement. C'est la spécialité française. C'est-à-dire, une affaire sort, on en parle deux jours, elle est enterrée et la vie continue. Elle continue, mais tranquillement, pour la quasi-totalité des auteurs d'abus de biens sociaux, de conflits d'intérêts, il ne se passe rien. C'est vraiment une spécialité française. Quant à faire des choses somptueuses pour des événements, par exemple comme le 13 novembre, les Français ne traversent pas la douane mondaine. Voilà, c'est l'entre-soi. On régale l'entre-soi en permanence. Et le parisianisme en est l'illustration parfaite. La discrimination sociale qui fait que dans un événement comme le 13 novembre qui concerne tous les Français, là aussi, la douane mondaine, elle opère. Et elle empêche les gens d'être là. Et voilà, et on met un max de pognon en le détournant pour à chaque fois exclure les Français d'histoires qui les concernent. Et moi, je supporte plus ça. Je supporte plus cet univers parisien et cette espèce de monde d'affaires qui touche les élus partout et qu'on enterre à chaque fois. Et en fait, on en parle aujourd'hui et on l'enterrera comme les milliers d'affaires qu'on enterre. Et ensuite, 2,50€ le litre, fermez-la, Total vous baisse de 40 centimes, c'est heureux. Et puis, Sébastien Lecornu va utiliser votre cagnotte qui vous a fait les poches pour justement vous mettre de l'électricité en 2030. C'est géant, ce pays est génial. Moi, je trouve ça fascinant, c'est extraordinaire. Il faut être à son chevet tous les jours pour en faire des histoires incroyables.
Qu'est-ce que tu prends le matin ?
Je prends rien, c'est ma nature.
C'est pas du Ricomé.
Non, la différence avec toi, Charles, c'est que moi, je suis réellement engagé.
C'est un produit qui est... Voilà. C'est un produit qui est
Il y a un coup de pelle au passage.